VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 29 mai 2015. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, le président Kabila lance aujourd'hui ses consultations pour un dialogue politique dans le pays.
Mohamedou Buhari prête serment aujourd'hui au Nigeria.
Au Mali, un attentat contre un convoi transportant le chef des casques bleus fait 3 blessés dans le nord du pays.
L'ONU revoit ses partenariats avec la FIFA suite au scandale sur les pots de vin.
En Syrie, une coalition dirigée par le front Al-Nosra a chassé hier les forces gouvernementales de la dernière ville qu'elles contrôlaient encore dans la province d'Idlib.
Et ne manquez pas notre rubrique, la Minute Éco, ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila lance aujourd'hui des consultations politiques tous azimuts en vue d'un dialogue aux contours encore flous, rapporte l'AFP. Une partie de l'opposition a d'ores et déjà annoncé qu'elle refusait de participer, y voyant une manœuvre de M. Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter pour retarder l'échéance de la présidentielle de novembre 2016, Henri Francisque.
Le chef de l'État commence vendredi des consultations avec toutes les forces vives de la nation, a déclaré à l'AFP un haut responsable congolais sous le couvert de l'anonymat. M. Kabila doit recevoir d'abord les chefs des confessions religieuses, puis les chefs coutumiers, avant de discuter avec les leaders des partis politiques de l'opposition, puis de la majorité, des groupes parlementaires et regroupements politiques, pour finir avec les diplomates accrédités en RDC et le chef de la mission de l'ONU au Congo, MONUSCO, a-t-on précisé de même source. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a publié en février un calendrier électoral global prévoyant une série d'élections locales, provinciales, sénatoriales, devant commencer en octobre et mener jusqu'à la présidentielle et aux législatives programmées pour novembre 2016. Les trois grands partis de l'opposition que sont l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le Mouvement de libération du Congo MLC et l'Union pour la nation congolaise UNC estiment en substance que ce calendrier fait peser une grande incertitude sur la tenue de la prochaine présidentielle dans les délais prévus par la Constitution. M. Kabila est au pouvoir depuis 2001.
Au Burundi, l'Église catholique a annoncé qu'elle retirait son soutien aux prochaines élections après des semaines de troubles politiques dans le pays. Elle a demandé dans un communiqué publié hier la démission des membres du clergé qui occupent des fonctions au sein des commissions électorales burundaises. De son côté, l'Union européenne a annoncé la suspension de sa mission d'observation au Burundi.
L'UE a dénoncé la fermeture des médias indépendants, le recours excessif à la force contre les manifestants, une atmosphère de peur et d'intimidation des partis d'opposition et de la société civile, ainsi qu'une commission électorale qui n'a toujours pas fait preuve d'indépendance.
Dans le nord du Mali, une attaque contre le convoi transportant le chef des casques bleus a fait 3 blessés. Morgane Guiriec.
L'explosion d'une mine au passage d'un convoi de la MINUSMA sur l'axe Taherje-Tombouctou illustre l'insécurité persistante dans le nord malien. Le général danois Michael Lollesgrad, commandant de la force militaire et le chef djiboutien de la police, Awale Abdou Nassir, ont tous les deux échappé à la mort. 3 casques bleus burkinabés ont par ailleurs été blessés. Lundi soir, un casque bleu bangladais a été tué et un autre grièvement blessé près de l'aéroport de Bamako. Les causes de ce décès n'ont pas été élucidées. Depuis le déploiement de la MINUSMA en juillet 2013, 35 casques bleus ont été tués. Pourtant, le général Jean-Pierre Bosser, chef d'état-major de l'armée de terre française, a assuré hier que Al-Qaïda au Maghreb islamique était durablement affaibli et avait perdu sa liberté de circulation.
Au Nigeria, Mohamedou Buhari, le nouveau président élu, sera investi aujourd'hui. Il vient reprendre les rênes d'un pays ébranlé par la crise économique, la corruption et les attaques de Boko Haram. Claire Morin-Gibour.
Le président sortant du Nigeria, Goodluck Jonathan, a transmis hier ses notes de passation à son successeur. Muhammadu Buhari va prêter serment aujourd'hui à Abuja en présence de nombreux dignitaires. Le secrétaire américain John Kerry mènera la délégation américaine avec notamment une figure symbolique, le Nigérian Hakeem Olajuwon, star de la NBA. Le parti de Muhammadu Buhari, l'APC, dit qu'il hérite d'un pays sinistré, doté d'une économie pratiquement à terre, à cause de la chute des cours du pétrole. En plus de la corruption qui gangrène le pays, M. Buhari va devoir résoudre les problèmes d'énergie chez le plus gros producteur de pétrole du continent, mais qui est privé d'électricité parfois des semaines d'affilée, et plusieurs villes subissent actuellement des pénuries de carburant. La question sécuritaire sera un des dossiers brûlants qui attendent le nouveau président, avec l'insurrection du groupe Boko Haram qui a fait plus de 15 000 morts depuis 2009.
Le ministre nigérian de l'Agriculture a été élu jeudi à Abidjan président de la Banque africaine de développement avec 58,10% des voix selon les résultats officiels. Jean-Roger Bion.
Après 6 tours de scrutin, le candidat nigérien a devancé le tchadien Bedoumra Korje, deuxième avec 31,62% des voix, et la candidate capverdienne Christina Duarte, 10,27%. On écoute le nouvel élu, Akinwumi Adesina.
Je pense qu'en ce qui concerne l'élection, ça a été fait dans une façon extrêmement transparente. On peut dire qu'on est fier d'être africain pour faire une élection comme ça.
L'élection du candidat du Nigeria, première puissance économique du continent, brise une règle non écrite qui voulait que la BAD soit dirigée par des pays de petite moyenne taille, mais qui est Akinwumi Adesina, Julien Aki, journaliste ivoirien.
Il est l'actuel ministre de l'Agriculture du Nigeria. C'est un diplômé en agroéconomie.
Monsieur Adesina prendra ses fonctions à la tête de la BAD le 1er septembre prochain. Sur son compte Twitter, Donald Kaberuka, le président sortant de la BAD, a adressé ses félicitations chaleureuses à l'heureux élu, prédisant qu'il ferait un excellent boulot.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, la police annonce que 2 voitures piégées ont explosé jeudi, près de 2 des hôtels de luxe les plus en vue de Bagdad, faisant au moins 3 morts et 10 de blessés, rapporte l'AFP.
En Syrie, une coalition de rebelles syriens dirigée par une branche d'Al-Qaïda a pris la dernière ville qui était encore aux mains du gouvernement dans la province nord-ouest d'Idlib, près de la frontière turque. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé en Grande-Bretagne, les forces syriennes se sont retirées d'Ariha après de violents affrontements avec l'armée de la conquête Daesh al-Fatah, la coalition dirigée par le front al-Nusra.
Ici, aux États-Unis, la caricature du prophète Mahomet n'apparaîtra pas sur les bus ou métros de Washington, à la grande fureur de l'organisatrice d'un concours sur ce thème qui avait provoqué une fusillade et 2 morts à Garland, au Texas, début mai. Pamela Geller, fondatrice de l'organisation American Freedom Defense Initiative, considérée comme islamophobe, s'est insurgée jeudi contre une atteinte au Premier Amendement et la liberté d'expression après la décision, dit-elle, des autorités des transports de la capitale de ne pas publier de publicité polémique et de ce fait une publicité de son organisation, rapporte l'AFP.
Un Kenyan a plaidé coupable jeudi à Miami, dans le sud-est des États-Unis, d'avoir projeté d'aider plusieurs organisations liées à Al-Qaïda en Syrie et en Somalie, a indiqué le ministère de la Justice. Mohamed Hussein Saïd, âgé de 27 ans, est originaire de Nairobi, a reconnu avoir tenté de collaborer avec Al-Qaïda ainsi qu'avec sa branche syrienne, le Front al-Nusra, et avec les islamistes Shabab en Somalie, des entités considérées comme terroristes par les États-Unis. Sa peine sera prononcée le 14 août. Il risque jusqu'à 15 ans de prison.
L'ONU, enfin, revoit ses partenariats avec la FIFA suite au scandale des pots de vin révélés par la justice américaine. Le Point avec Eddie Isango.
Pour Stéphane Dujaric, porte-parole à New York, l'ONU a décidé de regarder de plus près ses partenariats avec la FIFA. La décision intervient après l'arrestation à Zurich des 7 responsables du football mondial dans des affaires de pots de vin. M. Dujaric a cependant affirmé qu'aucune décision n'a été prise quant à un éventuel arrêt de ses partenariats. Les Nations Unies, selon le porte-parole, sont très engagées dans l'utilisation du sport pour diffuser un message de développement et de tolérance lors des grands événements sportifs. Pendant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, les fonds des Nations Unies pour l'enfance avaient organisé des espaces pour les enfants dans 3 villes sud-africaines qui accueillaient des matchs de football.
Et maintenant, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Le ministre nigérian de l'Agriculture, Akinwumi Adesina, a été élu jeudi à Abidjan, président de la Banque africaine de développement, la BAD, avec 58,10% des voix. Je suis très émue aujourd'hui. Vous m'avez donné une grande responsabilité, a lancé M. Adesina en français devant les gouverneurs qui l'ont élu à la tête de la Banque africaine. Après 6 tours de scrutin, le candidat nigérian a devancé le tchadien Benoura Kordje, deuxième avec 31,62% des voix. M. Adesina prendra ses fonctions à la tête de la BAD le 1er septembre prochain. En République démocratique du Congo, pendant un salon d'affaires à Lubumbashi, Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, a invité les groupes miniers étrangers à investir davantage dans sa province, qu'il a qualifié de « poumon économique du pays ». Conscient des difficultés rencontrées par les entreprises dans un pays gangréné par la corruption, M. Katumbi a exhorté les autorités tant provinciales que nationales à sécuriser les investissements et à accorder aux opérateurs toutes les facilités requises. La Tunisie peine à relancer son économie. Sa croissance et sa production industrielle sont en baisse au premier trimestre 2015. Minée par des crises politiques, l'essor d'une mouvance djihadiste, un manque de réformes économiques structurelles et des conflits sociaux à répétition, la Tunisie a du mal à sortir des années Ben Ali, marquées par la misère et le chômage.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Élection attendue tout à l'heure à Zurich du président de la FIFA.
En pleine tempête judiciaire et face aux accusations de corruption, Sepp Blatter maintient sa candidature pour un cinquième mandat. Face à lui, un seul candidat, le prince jordanien Ali. Hier encore, Sepp Blatter a tenté de justifier son bilan et il a expliqué qu'il ne pouvait pas surveiller tout le monde. Les appels à la démission du président sortant de la FIFA se sont multipliés. Le président du football européen s'est fait entendre. On écoute le président de l'UEFA, Michel Platini.
Nous avons suivi, comme vous tous, ou grâce à vous, un peu tout ce qui s'est passé. Et sincèrement, moi qui aime la FIFA, moi qui ai une grande admiration de l'histoire de la FIFA, je suis dépité. Je suis écœuré et j'en ai marre. Parce que je peux vous dire que à l'élection du président, une très 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 grande majorité des associations nationales européennes va voter pour le prince Ali. Nous avons discuté ensemble dans son bureau tête à tête et j'ai renouvelé ma proposition qu'il devait partir, qu'il devait démissionner, se rendre compte que le moment était pas bien et avoir le courage, l'honnêteté, la grandeur de se rendre compte que c'était pas bien. Il m'a dit Michel, tu sais, on se connaît bien, on s'aime bien, mais c'est trop tard. Je lui ai dit, c'est dommage, monsieur le président, je pense que ça aurait été formidable pour toi, pour ton image, que tu comprennes la situation et que tu nous quittes.
Michel Platini, le président de l'UEFA.
Le Mali dévoile la liste des joueurs retenus pour jouer le premier match qualificatif pour la CAN 2017.
Le sélectionneur du Mali, le français Alain Giresse, a dévoilé une liste de 24 joueurs pour le match contre le Soudan du Sud le 13 juin à Bamako. Les Aigles devront se passer des services de plusieurs joueurs majeurs en raison de blessures, notamment le gardien de but Mamadou Samassa, le défenseur Mola Wagé, le milieu de terrain Ahmed Tongo Doumbia, les attaquants Chekti Diagne Diabaté et Moustapha Yatabaré. En revanche, le défenseur Ousseynou Cissé, âgé de 24 ans, va honorer sa première sélection.
Résultat de match décalé de la 17e journée du championnat du Cameroun de football disputé jeudi.
Le Canon de Yaoundé a été battu 1-0 à domicile par le Cosmos de Bafia et le Dragon de Yaoundé qui s'impose 2-1 à domicile face au Bamboutos de Mbouda. Au classement, le Coton Sport de Garoua, toujours en tête.
Tennis tournoi de Roland-Garros.
Serena Williams, numéro 1 mondial, s'est fait une petite frayeur contre une inconnue allemande, Anna-Lena Friedmann, 105e joueuse mondiale, avant de s'imposer en 3-7, 7-5, 6-3, 6-3. Raphaël Nadal, 9 fois vainqueur du tournoi, une nouvelle fois facilement pris le dessus sur son compatriote, Nicolas Almagro, 154e joueur mondial, en 3-7, 6-4, 6-3, 6-1.
NBA, je le disais hier, l'affiche de la grande finale du championnat de basketball nord-américain est désormais connue. Golden State Cleveland.
Premier match de cette finale le 4 juin prochain. En attendant, les premières têtes tombent dans la ligue. Les Chicago Bulls, éliminés au deuxième tour des playoffs, se sont séparés de leur entraîneur Tom Thibodeau, en place depuis 2010. La décision des Bulls s'était largement anticipée en raison des problèmes récurrents entre Thibodeau et ses dirigeants.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, Muhammadu Buhari doit prêter serment aujourd'hui en tant que président du pays le plus peuplé du continent. Lagos, la grande métropole, est souvent plongée dans le noir par manque d'électricité. À Abuja, la capitale, comme dans plusieurs villes, pénurie de carburant chez le premier producteur de pétrole d'Afrique. Sur les défis qui attendent le nouveau président, Idriss Fall a joint le docteur Cletus Iom, professeur à l'université de Makurdi au Nigeria.
Mohamed Bouhari, le président élu, n'est pas nouveau en ce qui concerne l'administration du Nigeria. Il était une fois un chef d'État de notre pays, bien expérimenté. J'espère que lui aussi connaît bien les problèmes qu'il attend. On pense que Bouhari est capable de bien faire et de bien réussir son travail de président du Nigeria.
Un des premiers plus grands défis, ce sera la sécurité, parce que Boko Haram est là.
Boko Haram est là, oui, bien sûr. Mais nous avons également une armée qui est bien expérimentée et qui a joué un bon rôle au niveau international. Notre avis, on n'a pas bien utilisé notre armée. Lorsque le gouvernement a été sérieux vers la fin de son régime, lorsque les élections s'approchaient, on a effectivement attaqué le problème de Boko Haram. Et maintenant, on a capturé la majorité de leurs bases. Le problème est toujours là, mais pas aussi menaçant qu'avant.
L'autre problème, c'est la corruption. Le Nigeria est connu pour la corruption presque endémique.
Oui, oui. Cela a vraiment contribué à l'incapacité du gouvernement qui va partir. Le gouvernement était vraiment corrompu. La corruption même est arrivée au niveau de l'armée. Donc voilà pourquoi c'était difficile pour le gouvernement de vraiment trouver solution à ce problème de Boko Haram. On espère qu'avec Buhari, ce sera différent. Parce que lui, il n'aime pas la corruption. Il a déjà manifesté cela lorsqu'il était le chef d'État de notre pays. Il a vraiment combattu contre la corruption et l'indiscipline. Et vous vous rappelez War Against Indiscipline qu'il a introduit pour lutter contre ce dégât d'indiscipline-là. Nous espérons qu'il va vraiment s'attaquer à la corruption. Il a fait une grande promesse. Je pense qu'il va trouver une solution à ce problème.
Et aussi à la question du chômage, c'est le pays le plus peuplé du continent, première puissance économique, et l'ensemble, une bonne partie des jeunes n'arrivent pas à trouver du travail.
C'est une économie sur le papier. Le Nigeria a la plus grande économie en Afrique maintenant. Mais comment est-ce qu'on voit les effets de cette économie? Il n'y a pas de grands effets. Il y a le chômage, il y a beaucoup de gradués qui ne trouvent pas d'emploi. Il y a l'argent quand même, il y a l'argent. Il y a les individus qui sont même plus riches que le pays. Ils ne font rien pour améliorer la situation des paysans. La masse populaire souffre.
Le docteur Cletus Iom, professeur à l'université de Makurdi au Nigeria. Au Mali, première session de la cour d'assises de Bamako. Ces assises, qui doivent durer un mois, seront dominées entre autres par les questions d'insécurité, la corruption et le manque de moyens pour la justice. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Cette première session de la cour d'assises de Bamako doit trancher 200 affaires, 70 assassinats et 20 infractions contre les biens publics. Amadou Sango, avocat général près la cour d'appel de Bamako.
Nous avons voulu prendre en compte le dossier de toutes les personnes qui sont en détention provisoire depuis plus de 2 années. Par ce fait, si nous arrivons à faire juger toutes les affaires que nous avons enrôlées, il n'y aura plus de détenus ayant dépassé 2 années de détention provisoire. C'est ça la spécificité de cette session. La cour d'assises est une juridiction de jugement. C'est un collège de 7 juges, 3 magistrats professionnels et 4 non-professionnels qu'on appelle assesseurs qui vont prendre toutes les décisions. Les décisions seront prises à la majorité par vote à main levée.
Il y a 130 accusés, dont 20 femmes dans divers dossiers. Les faits reprochés ont pour nom viol, meurtre, empoisonnement, brigandage et pédophilie. Mamadou Berthe, premier président de la cour d'appel de Bamako.
La justice concerne tout le monde et chacun va s'impliquer pour sa mise en œuvre. en évitant de commettre l'erreur qui consiste à penser que le crime n'arrive qu'aux autres. Il arrive à tout le monde et peut frapper à toutes les portes, à soi-même, à un parent, à un ami. Ça sème le trouble social.
Cette session se tient à un moment où les auxiliaires de la justice, la police et la gendarmerie sont confrontés à d'énormes difficultés. C'est ce qu'a fait savoir le procureur général près la cour d'appel de Bamako, Daniel Amoguin Tosogui.
Et je pense qu'il est inconcevable qu'en ce 21e siècle, la police continue à utiliser, quand je parle de police, je parle de la police judiciaire, police et gendarmerie, continuent à utiliser les moyens artisanaux d'investigation, se fiant à la bonne étoile de l'enquêteur ou alors à la fragilité d'un suspect. La science doit être au chevet de la justice.
La lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite auront une place importante pendant cette session de la cour d'appel de Bamako.
Depuis près de deux décennies, la traque de la délinquance à col blanc est devenue un programme politique. Combien sont-ils à laisser la justice avoir les bras libres quand ils ont un frère, une sœur, un proche qui se trouve impliqué dans une procédure? Oui, on veut que la justice, la loi s'applique, mais contre les autres, pas contre soi.
Les représentants des avocats du Mali dira que force doit rester à la loi, car la loi est dure, mais c'est la loi. Sédou Doumbia, avocat.
Ce tableau n'est pas reluisant. Ce tableau n'est pas flatteur, loin s'en faut. Nous sommes au cœur d'une problématique profonde, l'homme et la loi, ou l'homme face à la loi. Quelle que soit la situation, la loi doit avoir droit de cité.
À l'issue de cette assise, la cour va prononcer des peines de réclusion, des peines d'amende et peut-être des acquittements. Mais ces décisions n'interviendront qu'après le jugement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Congo, réaction ce matin à l'appel au dialogue lancé il y a quelques semaines par le président Denis Sassou Nguesso. Il avait confirmé fin avril, lors d'une conférence de presse, la nécessité de la tenue d'un dialogue inclusif au sujet de la modification éventuelle de la Constitution. Un appel que rejette le Service d'action civique et de résistance, organisation regroupant des opposants congolais à Paris. John Benit Dasba en est le président.
Tout ce qu'il veut, c'est rester éternellement au pouvoir et endeuiller les Congolais, enfamer les Congolais. Donc l'opposition dans l'ensemble a dit non, non au dialogue avec M. Sassou.
Si vous refusez le dialogue, qu'est-ce que vous proposez?
Pour nous, M. Sassou doit partir. Il est à la fin de son mandat en 2016, il va partir. Rien ne permet aujourd'hui qu'il se représente. Il est frappé par la limite d'âge. Il est frappé par la limite de mandat.
Et peut-être que vous pouviez aussi le faire par le dialogue, non?
Mais non, mais c'est pas possible. Il y a eu plusieurs dialogues. Tout est toujours biaisé par M. Sassou. Il y a eu beaucoup de dialogues au Congo.
Et si vous rejetez cette main tendue, est-ce que vous n'avez pas peur d'être accusé d'être radicaux?
Mais non, monsieur. On ne peut pas être accusé de radicaux. Si M. Sassou veut vraiment un dialogue, ce n'est pas de cette manière-là qu'il veut le faire. Il envoie un courrier par son directeur de cabinet. Une convocation comme ça, en une nuit, pour dire que le lendemain, il y a concertation. Mais pour qui ça surprend les Congolais? Et s'il parle de concertation, pourquoi il ne peut pas mettre un médiateur? Pourquoi tout doit se faire autour de lui?
Vous préférez un médiateur que le gouvernement de Brazzaville?
Ben, écoutez, c'est préférable, parce que nous n'avons pas confiance à M. Sassou.
John Benit Dzaba, président du service d'action civique et de résistance.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Critiqué pour son silence et sa passivité sur les naufrages de migrants clandestins en Méditerranée, l'Union africaine a rendu un timide hommage mercredi aux milliers d'Africains qui ont trouvé la mort sur le chemin de l'Europe. Lors d'une cérémonie organisée à son siège à Addis Abeba, l'organisation continentale a lancé un appel aux dirigeants africains à faire un appel pour faire davantage pour s'attaquer au réseau de passeurs. Nicolas Pinault a joint pour une réaction le réalisateur Moussa Touré, dont le film à succès La Pirogue parle du drame de l'immigration.
Vous savez, un dirigeant africain, son seul souci, c'est que dès lors qu'il est dirigeant, c'est le fait de se faire réélire. Aujourd'hui, s'il se réveille, ce problème d'immigration, moi, je ne crois pas trop. Parce que, vous savez, en ce moment, Ça fait longtemps, mais maintenant, ça déborde. Ça veut dire qu'il y avait 1 000, maintenant c'est 10 000. Maintenant, ce n'est plus 10 000, c'est 20 000. C'est ça, et c'est journalier. Parce que quand ils quittent dans le silence, personne ne dit rien. Mais tout le monde sait qu'ils quittent. Et c'est là où, quand même, le bas blesse. Donc, ils attendent que des gens, ils arrivent au but, à leur but où ils sont morts, que les autres, par exemple l'Europe, commencent à parler de ça, du départ et des morts, que les dirigeants africains se mettent à parler. Moi, je ne crois absolument rien, parce que c'est un état de fait où tous les Africains, que ce soit les dirigeants, les peuples, sont bien au courant que la jeunesse africaine s'en va.
Globalement, sur le continent africain, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de perspective économique et de démocratie qui donnerait une voix à cette jeunesse africaine qui s'en va ?
Ça fait longtemps qu'il s'en va. Parce que tout simplement, il n'a pas d'horizon, il n'a pas de direction. Les dirigeants africains, dans leur politique, ils ne donnent pas d'horizon ni de direction à une jeunesse. Dans leur direction politique, aucunement, ils ne s'adressent ni à la jeunesse ni autre. C'est ça le problème. Et puis bon, aussi, il y a des dictateurs quand même. Parce qu'il y a des gens qui règnent depuis 27 ans. Il y en a d'autres qui règnent depuis 30 ans. Mais qui règnent, c'est juste leurs enfants, juste leurs familles qui peuvent être à l'aise, qui ont des directions, qui peuvent avoir des horizons. Et puis dans des pays comme par exemple le Sénégal, où quand même il existe une démocratie, il faut dire, mais il faut une politique. Même s'il y a une démocratie, il faut une politique de la jeunesse. L'Afrique actuelle, elle est à 75% de jeunes. Et dans ces 75% de jeunes, nous sommes à 65% de jeunes de moins de 20 ans. C'est ça le drame de cette jeunesse qui va vers d'autres horizons, où cet horizon, il n'y a que le désert et la mer. C'est les seules possibilités. Et puis bon, devenir quelqu'un, c'est avoir une perspective horizon, c'est-à-dire pouvoir travailler, pouvoir être formé. Ou sinon, la deuxième, c'est aller immigrer. Immigrer, c'est aller se suicider. Ça veut dire on tente sa chance.
Moussa Touré, réalisateur du film La pirogue. Le Bénin pleure l'un de ses plus illustres fils, ancien ministre de la République, écrivain, Jean Plia, a eu une grande influence sur la littérature africaine. Il aura aussi marqué l'Église catholique béninoise, surtout grâce à ses efforts pour l'entrée au Bénin du renouveau charismatique, un mouvement très populaire de prière de l'Église catholique. Jean Plia a été inhumé hier à Cotonou. Notre correspondant sur place, Peggy Ludovic Dagba.
Décédé à Abidjan le 14 mai dernier, l'écrivain et président du renouveau charismatique du Bénin, Jean Plia, a été conduit à sa dernière demeure et l'Église catholique béninoise a tenu à lui rendre hommage à travers une concélébration eucharistique exceptionnelle dirigée par l'évêque d'Atakpamé, Mgr Nicodème Bariga du Togo, à la tête de plusieurs évêques et une armée de prêtres, de religieux et de religieuses.
Jean, notre frère et ami, a achevé sa course comme il a vécu. L'évangile à la main, le nom du Christ sur les lèvres, le feu de l'esprit dans le cœur. Il a été un témoin jusqu'au bout, un prédicateur exceptionnel, un homme rayonnant de Dieu, un disciple dévoué que le Seigneur avait comblé de nombreux charismes pour le service de son Église.
Avant de se dévouer à l'Église ces dernières années de sa vie, Jean Plia aura marqué la vie politique de son pays en occupant de hautes charges, dont celle de ministre, de recteur d'université et j'en passe. Son compagnon de tous les combats, le professeur Albert Evoyeret, va révéler avec bonheur, lors de son oraison funèbre, l'origine de tant de compétences concentrées en l'homme.
En 1949, furent organisées au Dahomey les premières épreuves du plus haut diplôme, enfin disponible à cette époque sur notre territoire, le brevet élémentaire. Les grandes écoles de ce temps, Victor Ballot et Saint-Gall, présentèrent de nombreux candidats. 20 furent admis. Je vois encore la scène de la proclamation des résultats. Premier du Dahomey, Jean Plia. Deuxième, celui qui vous parle.
Écrivain de renom, Jean Plia a signé de nombreux romans dont la qualité sera reconnue à l'international. Les tresseurs de cordes, la secrétaire particulière, Condo le requin et bien d'autres œuvres peuvent être citées en exemple et qui auront été inscrits au programme d'études des lycées et collèges en Afrique. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Wilson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.